Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 6 mai, la vaccination accélère encore. À partir de lundi 10 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans y auront accès et toutes les doses non utilisées dont on a beaucoup parlé la semaine dernière seront ouvertes à tous à partir du 12 mai. Annonce faite ce matin par Emmanuel Macron. Une personne arrêtée à Avignon, mais le tueur d'un policier sur un point de deal est toujours en fuite. Il y a quelques semaines, le chef de l'État avait fait de la lutte contre la drogue la mère des batailles. Dans RTL Midi aussi, nous reviendrons longuement sur ce féminicide à Mérignac. Les voisins de la victime avait vu le meurtrier rôder alors qu'il était recherché. Deux navires de guerre britanniques au large de Jersey pour contrer la colère des pêcheurs français, pas très diplomatique. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera dans le château de D'Artagnan. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
On se croirait en automne franchement.
C'est vrai, en plus tous les éléments y sont, hein. Les nuages, les fortes pluies, les orages, le vent, il y a même de la neige. Alors le gros de la perturbation se décale actuellement entre l'Aquitaine, le Massif central et les frontières de l'Est avec une bonne quantité de neige sur les Alpes du Nord à partir de 2200 mètres. À l'arrière, sur un large quart nord-ouest, là on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, mais très chargé avec de fréquentes averses. Ça se dégage un peu plus entre la Bretagne, la Vendée, le centre, avec un coup de tonnerre possible. Et puis, entre les Pyrénées et la Méditerranée, c'est plus nuageux que ce matin, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, où ça reste très ensoleillé. Et c'est bien frais tout ça, hein, de 10 oui. à 17 degrés ce matin, jusqu'à 23, cet après-midi, jusqu'à 23 au sud.
La question du jour sur RTL.fr à propos du drame de Mérignac. La justice a-t-elle failli? On attend vos appels, vos témoignages au 3210. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle. Avec cette double actualité lourde et dramatique, ce policier tué hier lors d'une intervention près d'un point de deal à Avignon et donc cette jeune femme de 31 ans, mariée et mère de trois enfants, maman de trois enfants, qui est morte ce mardi. Vous pourrez réagir également à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron qui souhaite donc l'ouverture de la vaccination à tous sans limite d'âge.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute.
Au moment où l'on évoquait hier le débat sur la légalisation du cannabis, un policier est mort sur un point de deal à Avignon. Un homme de 36 ans qui laisse deux petites filles de 5 et 7 ans. Ils étaient plusieurs à avoir été envoyés pour un attroupement autour d'un point de deal dans le centre-ville lorsqu'un homme lui a tiré dessus avant de s'enfuir en trottinette. Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL. Le tueur n'a pas été retrouvé, mais une personne a été interpellée.
Oui, il s'agit d'une femme de 58 ans interpellée dans la nuit. Elle était présente hier soir sur le point de deal pour acheter de la drogue. Elle est, selon les enquêteurs, un témoin clé du drame qui s'est joué hier soir. Grâce à elle, les policiers vont peut-être pouvoir retrouver l'identité du fuyard. Les images de vidéosurveillance sont, elles, en train d'être exploitées pour retracer le parcours du tueur qui s'est enfui, vous le disiez, en trottinette. Des policiers qui prennent toutes les précautions. Un homme n'a pas hésité à tirer hier soir sur l'un des leurs. Enfin, il restera également dans un deuxième temps à déterminer les conditions exactes de l'intervention et son déroulement tragique.
Et dans le quartier, bien sûr, Étienne, l'émotion est toujours aussi vive.
Oui, évidemment, dans ce quartier aux étroites ruelles, au cœur du centre-ville, où tout le monde se connaît, c'est encore la stupeur qui domine. La rue a été coupée à la circulation. Sur la chaussée est encore délimitée à la peinture la silhouette du policier tombé sous les balles. Frédéric est venu déposer un bouquet de pivoine. Il est sidéré.
Je suis un voisin, c'est tout, et on a de la peine pour cet homme qui est mort dans ses fonctions, quoi. C'est très touchant, paix à son âme.
Vous pensez que ça pouvait arriver, une telle chose, ici ?
Non, Avignon, pas tuer des policiers à balles, en plein après-midi, à 6h30, quoi. C'est traumatisant.
Et de nombreux Avignonnais sont venus déposer, eux aussi, d'autres bouquets de fleurs et des bougies.
Étienne Baudu, en direct d'Avignon pour RTL. Le drame, on le disait, a eu lieu lors d'une intervention près d'un point de deal dans une petite rue à l'intérieur de la Cité des Papes. Emmanuel Macron a fait de la lutte anti-drogue ces derniers mois, la mère des batailles. Et depuis le mois de janvier, les policiers ont mené plus de 1740 opérations pour taper ces points de deal, Guillaume Chiez.
Oui, il faut harceler les points de deal. C'est le terme utilisé régulièrement par Gérald Darmanin depuis le début de l'année. Harceler et répertorier tous les lieux où se pratique la vente de stupéfiants avec un double problème. D'abord, celui que le trafic ne se reporte pas ailleurs, quelques rues plus loin. Mais l'autre difficulté, c'est aussi la violence que peut entraîner la fermeture d'un point de deal. C'est pourquoi les enquêteurs anti-stup travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues chargés du crime organisé. Un fonctionnaire de police très haut placé Français affirme que les trafiquants sont de plus en plus armés, dangereux, que les guerres de territoire sont régulières. D'ailleurs, 80% des règlements de compte en France sont liés au trafic de stupéfiants. Dans leur saisie, les policiers retrouvent des armes à feu de plus ou moins gros calibre, des armes qui jusqu'à hier soir n'étaient pas destinées à être utilisées contre les forces de l'ordre, mais plutôt pour se protéger de la menace de trafiquants rivaux.
Et le syndicat Alliance considère que l'État ne protège plus ses policiers et prévient d'une action possible des fonctionnaires dans les prochains jours. Elles sont 39 femmes à avoir été tuées par leur mari ou leur compagnon depuis le début de l'année. Et le prénom de Shaïnez vient de s'inscrire dans cette terrible liste dans des circonstances particulièrement épouvantables. À 31 ans, cette mère de 3 enfants a été brûlée vive devant chez elle à Mérignac, près de Bordeaux, après qu'il lui a tiré dans les jambes. L'homme avait déjà été condamné pour violence conjugale. Il était sorti de prison en décembre. Shaïnez avait de nouveau porté plainte le 15 mars, mais les recherches n'avaient rien donné, Philippe Demarien.
Oui, et cette plainte du 15 mars déclenche des recherches, car Mounir viole par cette nouvelle agression son sursis probatoire. Recherche, vous le disiez, sans résultat. Pourtant, Daniel, le plus proche voisin de la victime, affirme qu'il le voyait encore récemment passer ici, dans la rue du Drame.
On l'a vu passer de temps en temps. Disons qu'il rôdait. Il rôdait dans le coin, il passait épisodiquement, c'était pas régulier, les heures étaient différentes, etc. Et il changeait de véhicule, il n'avait pas toujours le même véhicule.
Alors les policiers se sentent mis en cause. Ils affirment pourtant avoir fait leur boulot, contrairement à la justice, selon Éric Maroc du syndicat Alliance.
On n'est pas tombé dessus parce que je pense qu'il se tairait et qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour échapper au service de police. Il a été remis en liberté et on ne pouvait pas atteindre à sa liberté à lui. La justice a certainement failli à Bordeaux sur ce dossier. Il n'avait pas de bracelet électronique, il n'avait aucune mesure, on va dire, coercitive. Pas d'obligation d'aller pointer dans un commissariat, il était dans la nature.
Et la victime, Shaïnez, n'avait pas non plus de téléphone grave danger qui permet, avec un seul bouton, de prévenir les secours.
Philippe Demaria, on fait une pause dans un instant, on va se demander si la justice a failli dans cette affaire.
RTL Midi, avec Christelle Rebière.
Et la question du jour, qui revient évidemment sur ce drame de Mérignac, cette femme de 31 ans suppliciée, tuée par son mari. La justice a-t-elle failli? Vous allez y revenir avec les auditeurs au 32-10, Pascal Proulx.
Il semble en tout cas que Gérald Darmanin, Marlène Schiappa et Éric Dupond-Moretti puissent le penser, puisqu'ils viennent de saisir conjointement l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice sur les faits criminels survenue à Mérignac. Donc elle pourrait avoir failli au moins sur deux points. D'abord, le suivi de la protection. Il y a un service de protection qui doit suivre la personne qui avait été libérée, et notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Manifestement, cet suivi n'a pas été fait. Et puis, une plainte a été déposée le 15 mars. Et manifestement, les policiers ont fait leur travail. Ils ont été chercher celui qui a tué cette femme hier, mais il avait donné une fausse adresse et il n'y avait pas de téléphone renseigné. Donc là encore, sur ce sujet-là, il y a eu un manquement, et c'est cela sans doute que devra déterminer cette double enquête, je le répète, cette double saisine conjointe de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la justice.
Et pour aller plus loin sur cette question douloureuse, avec nous en studio, Ernestine Renet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes. D'abord, que vous inspire ce drame particulièrement horrible?
D'abord, bien sûr, l'horreur, on ne peut pas le dire autrement, mais pas que. Je pense que de cette histoire, de ce fait, il faut qu'on tire des enseignements. Le premier enseignement, quand même, c'est évidemment qu'au départ, le contrôle judiciaire n'a pas été contrôlé. Il faut donc un meilleur contrôle social. La deuxième chose, la dame avait porté plainte une deuxième fois pour une tentative d'étranglement. Ça veut dire une tentative d'homicide, de féminicide. Donc, elle avait risqué la mort à ce moment-là. On peut imaginer que même si on ne retrouve pas l'agresseur, le procureur donne à ce moment-là à la femme victime un téléphone grave danger.
Oui, et mais on a l'impression qu'on les distribue au compte-gouttes, ces téléphones
absolument
grave danger.
Et c'est un vrai souci. On en est à 1715 téléphones distribués aux femmes. Moi, j'appelle le gouvernement, la justice, à dire qu'il en faut 5000 en France. Il y en a plus de 10 000 en Espagne, disons au moins 5000 en France, pour que réellement, quand il y a une tentative d'homicide, automatiquement on donne un téléphone grave danger à la dame puisqu'elle est en danger. Si monsieur n'est pas incarcéré, ce qui était le cas, eh bien il faut lui donner un téléphone automatiquement. Il faut pas. Donc ce qui manque en France, c'est la pensée de la dangerosité des hommes violents. Les hommes violents sont dangereux, ils sont imprévisibles. Donc il faut appliquer un principe de précaution et donc protéger avec les moyens qui existent. Tout à l'heure vous parliez de l'inspection de la justice, l'inspection générale de la justice. On a eu en 2019 une inspection qui disait que le téléphone grave danger avait, sur 88 féminicides, il y avait eu un téléphone qui devait être attribué, qui n'a pas été distribué. Le contrôle judiciaire, il y en avait très peu, et l'ordonnance de protection, il y en avait deux qui avaient été demandées et une qui avait été refusée. Donc en vrai, on voit bien que tous les moyens, la justice a tout ce qu'il faut, tous les moyens existent, maintenant il faut appliquer la loi et donc être plus réactif.
Là, cet homme, il aurait dû porter un bracelet anti-rapprochement. Pourquoi il n'y en a que 37 actuellement dans notre pays?
Alors,
qui ont été
déployés?
Sortie... Parce que c'est compliqué à mettre en place?
Alors, ça aurait pu être mis en place à la sortie de l'incarcération, si on avait pensé dans l'évaluation du danger que c'était un monsieur très 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 dangereux. Mais comme vous avez
c'était
entendu...
C'était un récidiviste. Hein.
Oui, c'était donc un récidiviste qui avait déjà eu une petite peine de prison, parce qu'on va dire que 9 mois, c'était quand même pas énorme. Donc déjà, voilà. Et puis, donc on aurait pu lui mettre un bracelet anti-rapprochement si on avait pensé qu'il était très dangereux. Et en tout cas... on aurait pu donner à la dame un téléphone grave danger sur lequel elle appuie et elle peut être protégée. Et puis, il y a autre chose qui, moi, me scandalise, c'est le non-retrait des armes. Ce monsieur avait des armes. S'il n'avait pas eu d'armes, elle aurait pu courir. Là, elle n'a pas pu courir puisqu'il lui a tiré dans les jambes. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement impressionnant, c'est que le ministère de l'Intérieur a donné au préfet en février l'ordre de retirer les armes dès la plainte. Et là, c'était plus que la plainte, il avait été condamné et il avait à nouveau tenté d'étrangler la dame.
Mais bien, il a pu se procurer des armes après en sortant de prison, et de
aussi,
toute façon il était recherché depuis le mois de mars. Ça,
voilà.
C'était
donc
possible,
il y avait vraiment... Oui, il y avait un travail, mais en février, on aurait pu lui retirer les armes.
Et cet homme avait des rendez-vous réguliers, obligatoires avec la justice. Ça ne suffit pas, on ne les suit pas correctement aujourd'hui?
En vérité,
ou
il faudrait...
c'est une exception?
Non, il faudrait penser à un véritable contrôle judiciaire. Quand on dit contrôle, c'est contrôle social. Donc, effectivement, un service qui soit nommé, dédié, et qui fait un contrôle étroit, et non pas un contrôle lâche. Voyez. Et donc, je pense que là aussi, il y a quelque chose à repenser. D'une manière générale, je pense qu'il y a à repenser la protection des femmes dans le cadre d'un principe de précaution, et à penser la dangerosité des hommes violents. On voit bien qu'ils peuvent passer à l'acte à tout moment, et donc c'est pour ça qu'il faut protéger les femmes.
Merci beaucoup, merci Ernestine Ronet d'avoir été l'invitée de RTL Midi. Un vaccinodrome à Paris, il a été inauguré ce matin par Emmanuel Macron, parc des expositions de la Porte de Versailles. 2500 à 3000 personnes pourront être vaccinées chaque jour, et une semaine après la polémique sur les doses inutilisées, le chef de l'État a fait cette annonce.
Nous ne voulons pas, particulièrement au moment de ce week-end qui peut être un peu long, du pont de la semaine prochaine, qu'on gâche quelques doses que ce soit. On veut optimiser et être sûr que toutes les doses seront pleinement utilisées. Donc à partir de mercredi 12, vous pourrez regarder la veille sur le site, particulier Doctolib, les doses qui sont disponibles. Et cela, quel que soit votre âge. Et s'il y a, à l'endroit où vous êtes, des doses qui sont disponibles le lendemain, et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge.
Les plus de 50 ans pourront, eux, se faire vacciner à partir de lundi prochain au lieu du 15 mai. Pour cela, ils pourront prendre rendez-vous dès demain. La vaccination s'ouvre aussi aux adolescents de 16 à 17 ans atteints de certaines maladies graves comme les cancers. Ça représente entre 10 et 20 000 personnes. Et il faut que les jeunes reprennent le sport de toute urgence. Le ministère des Sports propose pour la rentrée un passeport, un chèque de 50 euros pour aider les familles les plus en difficulté à inscrire ou réinscrire leurs enfants dans un club ou une association, Sophie Orange.
Oui, un coup de pouce bienvenu pour les parents et indirectement pour les clubs. Pour les familles déjà frustrées d'avoir inscrit leur enfant cette saison avec beaucoup d'activités qui ont dû tout arrêter, s'arrêter à l'automne, des mois sans entraînement, sans compétition, sans match, alors que la licence, elle est payée en totalité en septembre. Certains clubs vont proposer un remboursement total ou partiel des licences de cette saison, mais ce n'est pas obligatoire. Autre possibilité, transformer votre adhésion au club en don et vous bénéficiez alors d'une déduction fiscale, comme si vous aviez envoyé un chèque à une ONG. Mais il faut que le club demande un accord à l'administration fiscale. Ce passeport de 50 euros, dont on connaîtra les modalités dans quelques jours, permettra aux parents de moins hésiter à inscrire leurs enfants, ou eux-mêmes d'ailleurs en septembre prochain. C'est vital pour les clubs. Certains ont vu leur nombre d'adhérents baisser de 40% en 2020. C'est le cas du judo, de la natation, du hand. Moins 57% même pour la boxe et la lutte.
Et c'est vital aussi pour la santé des enfants.
C'est
merci
et
Sophie.
Des grands.
Et des grands. Dans un instant, la levée des brevets des vaccins, l'Europe étudie la question.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Une décision historique. C'est par ces mots que l'Organisation mondiale de la santé salue l'annonce faite par les États-Unis. Ils prônent la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid pour qu'ils soient enfin partagés de manière plus équitable avec les pays pauvres. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, y est favorable.
L'Union européenne est prête à discuter de toute proposition qui s'attaquerait à la crise de façon efficace et pragmatique. Nous sommes prêts à débattre de la façon dont la proposition américaine peut permettre d'atteindre cet objectif.
C'est un premier pas, Bénédicte Tassard, mais la décision doit être collégiale.
Oui, elle doit être prise au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les règles de l'OMC, qui protègent la propriété intellectuelle, prévoient des dérogations face à des situations exceptionnelles. On peut distribuer un brevet à des entreprises dans ce cas. Alors cette demande, elle a été posée sur la table par l'Inde, par l'Afrique du Sud. Les laboratoires, on s'en doute, n'y sont pas favorables. Ils opposent la difficulté de transmettre leur savoir-faire et d'envoyer les équipements adéquats, comme les filtres ou les tubes. La dernière réunion à l'OMC hier s'est encore soldée par un échec. Cependant, les négociations ne sont pas rompues. Une nouvelle proposition doit être examinée mardi, avant peut-être enfin une décision le 8 juin prochain. Ce matin, c'est Emmanuel Macron qui s'est prononcé favorablement au vaccin comme bien commun, en rappelant qu'à court terme, le plus efficace quand même, c'est de donner des doses.
À Bénédicte Tassard, un face-à-face, on ne peut plus tendu autour de l'île anglo-normande de Jersey. Une cinquantaine de bateaux de pêche français sont venus protester contre les nouvelles règles que leur impose le Brexit. L'Angleterre a envoyé deux navires de guerre sur zone pour les dissuader de bloquer l'accès au port. Quelle tension inédite, Brice Dugénie.
Absolument. Malgré la présence de ces deux bâtiments de la Royal Navy, la cinquantaine de bateaux de pêche français a bien pris la direction de l'île anglo-normande à 3h du matin, accompagnée par deux patrouilleurs français, c'est-à-dire des gendarmes des mers, des policiers chargés d'encadrer la manifestation au cas où elle dégénère. Les pêcheurs ont bloqué temporairement une partie du port de Jersey et ont manifesté avec des fumigènes. Pourquoi ? Pour obtenir l'assouplissement des règles qu'ils trouvent trop restrictives pour les pêcheurs français. Parmi eux, il y a Laurent Blondel, capitaine de la Presqu'île 2. Il est au micro de Frédéric Veil.
C'est plutôt bon enfant l'ambiance. Hein. Ça se passe bien pour l'instant. On doit avoir quelqu'un qui doit venir nous parler, là, normalement. Le ministre, un des ministres de Jersey, parlementaire. De toute façon, il faut qu'on ait une réponse positive, quelque chose qui soit cohérent par rapport à notre activité, parce que sinon, c'est pas viable, alors on lâche rien de toute façon.
Yann Gorst, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'île qui va en effet recevoir une délégation de pêcheurs français pour discuter. Tout à l'heure sur la chaîne anglaise Sky News, il se disait surpris justement de la disproportion du déploiement de forces autour de son île avec des navires militaires. Il prône le dialogue, même si les pêcheurs français ont quand même été accueillis ce matin par quelques insultes et des gestes peu accueillants de la part de leurs homologues britanniques.
Et Paris appelle Londres à l'instant à revenir sur les restrictions imposées aux pêcheurs.
RTL. Le coup de cœur de nos correspondants.
Direction Lupiac dans le Gers où une belle propriété est en vente. Il s'agit du château de Castelmort qui est en fait la demeure de D'Artagnan. Un peu plus de 400 ans après sa naissance, le souvenir du fidèle serviteur de Louis XIV est encore bien présent. Et vous êtes notre mousquetaire, Pierre Collin.
Oui, et sous la statue équestre de D'Artagnan, située sur la place D'Artagnan, on peut croiser Marc, habitant du village, qui connaît bien le château.
L'intérieur a une cuisine magnifique avec un escalier monumental.
On le voit pas à la radio, mais vous avez un peu la même moustache. Est-ce que D'Artagnan s'est fait exprès ?
Non, c'est de naissance. Je suis né comme ça, oui.
Le château est situé à quelques kilomètres du village, 25 pièces sur 3 niveaux et 4 tours. C'est une demeure privée, désormais en vente. Janine Espier est l'actuelle propriétaire.
C'est donc le château où est né
Charles de Batz de Castelmaur, dit d'Artagnan, qui a été construit au 11e, une partie au 11e, 12e siècle, et il a été agrandi par la suite au 17e, 18e siècle.
C'est la partie la plus ancienne qui a abrité les premières années de la vie du célèbre Gascon. Alina Goebel est agent du patrimoine à Lupiac.
Alors le rêve pour nous, évidemment, ce serait que ce château soit public ou semi-public, ou en tout cas mis à la disposition des habitants et de la commune, au moins pour des événements particuliers.
Alors si vous venez à Lupiac, vous pourrez visiter le musée d'Artagnan ou vous déguiser en costume d'époque pour le festival, deuxième dimanche du mois d'août. Pour vous porter acquéreur du château, ce sera un peu plus cher, mais la somme est à discrétion de la propriétaire.
Voilà, ben on va se contenter du déguisement pour l'instant. Et on retrouve Pascal Praud, notre d'Artagnan sans la moustache.
Quand dans la même actualité, vous avez un policier de 36 ans tué, qui laisse deux jeunes filles de 5 et 7 ans, je crois, et que parallèlement, vous avez une femme qui a été tuée hier dans les conditions que nous connaissons, c'est une émission que nous allons faire avec les auditeurs qui est lourde, dramatique, et j'imagine que les témoignages vont être poignants, parce que que dire sur ces deux actualités, sinon de regretter parfois que la justice ne fasse pas tout à fait ce qu'elle doit faire. Et c'est la question que vous avez posée et qu'on posera aux auditeurs. La justice a-t-elle failli? Et également, sans doute, faire en sorte que les policiers puissent être davantage protégés et puissent faire sur le terrain un travail qu'ils ont manifestement aujourd'hui du mal à faire. Donc c'est de cela dont on va parler pendant 1h30.
Et je pense que vous allez avoir beaucoup de témoignages, Pascal. La météo, Peggy Broche, c'est bien frais tout ça.
Oui, c'est vrai, Christelle, on est bien loin des normales au nord. Je rappelle, la moyenne à cette période de l'année, c'est 18 degrés. Cet après-midi, ça n'ira pas au-delà des 10 degrés à Caen.
Mais 18 degrés, ça nous fait rêver. Hein.
Mais oui, bien sûr. Bon, on les atteint largement dans le sud. Hein.
C'est vrai.
C'est vrai, et même au-dessus. 11 à Lille, seulement 13 à Paris et Strasbourg. Allez, 17 à Rennes quand même, on s'en approche. Ainsi qu'à Lyon et Bordeaux, 21 à Toulouse, 22 à Marseille, 23 à Perpignan. Bon, côté ciel, ça reste bien gris, pluvieux sur les trois quarts nord du pays avec des pluies continues et localement soutenues qui se décalent entre le Nord-Aquitaine, Massif Central et le Nord-Est. Le tout avec beaucoup de vent. On a des rafales jusqu'à 90 km/h prévues sur le Massif Central. De la neige même à partir de 2200 mètres sur les Alpes du Nord. D'ici demain, il pourrait y avoir une bonne quantité de neige, 40 à 60 cm de neige au-dessus de 2500 mètres. Et sur un large quart nord-ouest, le ciel reste couvert avec des averses, voire un coup de tonnerre. Et ce sera plus lumineux au fil des heures entre le sud Bretagne, la Vendée et le centre. Et puis toujours à l'écart de cette perturbation comme ce matin, l'extrême sud, donc entre les Pyrénées et la Méditerranée, même si le ciel devient un peu plus nuageux que ce matin, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, là ça reste très beau.
Bon, et demain c'est toujours pas le printemps.
Et non Christelle, même si ça ira mieux quand même, notamment sur la moitié nord, avec le retour d'éclaircies, voire du beau soleil notamment le matin, après dissipation de quelques brouillards. Et puis dans la partie sud du pays, de l'Aquitaine aux frontières de l'Est, là le ciel sera encore chargé, avec de petites pluies, beaucoup moins qu'aujourd'hui, et les nuages vont se morceler au fil des heures. Les pluies seront beaucoup plus rares à l'après-midi, mais attention au fort risque d'avalanche avec la neige qui tombe aujourd'hui sur les Alpes du Nord. Et le temps restera sec et lumineux entre la Méditerranée et la Corse. Les températures, elles vont enfin remonter un peu légèrement au nord, de 13 à 17 degrés légèrement. Voilà, ça ira beaucoup mieux samedi par contre. Et puis jusqu'à 25 au sud.
On commence à rêver de samedi.
Ouais.
N'oubliez pas de revenir demain. Merci Peggy. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Il est 13h et évidemment, c'est cette double actualité dramatique à Mérignac et à Avignon qui va vous faire réagir aujourd'hui. Et tout d'abord, ce policier tué à Avignon. Nous sommes avec Fabrice, qui lui-même est policier peut-être. Bonjour.
Bonjour Pascal Praud. Oui, effectivement, policier. Et aujourd'hui, notre institution à nouveau endeuillée, tristesse et colère.
On va développer évidemment cette idée, le rappel des titres avec Christelle.
La vaccination accélère encore. À partir du 10 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans y auront accès. Et toutes les doses non utilisées dont on a beaucoup parlé la semaine dernière seront ouvertes à tous à partir du 12 mai. Vous pourrez réserver parmi les créneaux disponibles le lendemain uniquement. C'est une annonce faite par Emmanuel Macron. La Fondation Abbé Pierre demande au gouvernement de prolonger la trêve hivernale des expulsions locatives au-delà du 31 mai. Selon elle, cela menacerait 30 000 ménages. images. Une mission d'inspection décidée par trois ministres après le meurtre d'une femme par son mari à Mérignac. Il s'agit de déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements de la justice ou de l'administration. Le meurtrier avait déjà été condamné pour violence sur sa femme et cette dernière avait porté plainte encore une fois le 15 mars dernier. Une personne arrêtée à Avignon, une acheteuse qui se trouvait sur le point de deal au moment où un policier a été tué hier en fin d'après-midi. Le meurtrier, lui, est toujours en fuite.
Les auditeurs ont la parole.